Nous allons poursuivre par notre sujet principal, qui va porter aujourd'hui sur les logiciels libres pour les journalistes d'investigation avec nos deux invités, Caroline Despra et Maxime Vanza Lutonda, qui font partie du consortium international des journalistes d'investigation, ICIJ, en anglais, avec mon anglais à moi. N'hésitez pas à participer à notre conversation. Pour cela, vous pouvez aller sur le salon web dédié à l'émission, donc sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, ou sur le site libreavous.org. Et vous pouvez également appeler au numéro de téléphone suivant 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Alors, on va commencer déjà. Bonjour Caroline, bonjour Maxime.
Bonjour Frédéric.
Alors, on va parler de logiciels libres, je l'ai dit, pour les journalistes d'investigation. Alors, peut-être que les mots-clés que j'ai employés tout à l'heure, Panama Papers, Pandora Papers, Uber Files, plus récemment, diront quelque chose aux personnes. On en parlera tout à l'heure un petit peu en détail. On va commencer d'abord par une petite présentation personnelle rapide pour savoir qui vous êtes. On va commencer par Caroline Despra.
Merci. Je suis Caroline Despra, je suis docteur en informatique. J'ai rejoint le consortium il y a en 2021 en tant que développeuse et depuis quelques mois je suis adjointe CTO.
Alors CTO, directrice technique adjointe quoi.
Exactement. Ouais. Et après un petit stage aux Inrocks et un court passage chez OVNI, j'ai découvert le data journalisme et j'ai eu l'opportunité de rejoindre le consortium en 2021 et c'était une sorte d'évidence de pouvoir participer à ce travail entre les journalistes et la tech.
Alors avant de passer la parole à Maxime, les gens qui nous écoutent connaissent sans doute les Inrocks, mais alors par contre OVNI, les gens ne connaissent pas, donc c'est dans les années 2010, c'était un site d'information français spécialisé dans la culture numérique, et qui avait aussi participé à quelques révélations à l'époque, donc aux alentours des années 2010, et OVNI c'est avec un W, c'est objet web non identifié, c'est bien ça?
Tout à fait, oui, c'était un des pure player pionnier dans le data journalisme qui a aidé à révéler les Wikileaks, etc. avec un travail avec Julien Assange.
Voilà. Maxime Vanza Lutonda.
Oui. Alors pour ma part, je suis diplômé de l'ENS2IE. C'est une école d'ingénieurs en informatique. Et au cours de mon cursus, je me suis concentré sur le traitement automatique des langues. Et comme j'ai toujours eu un intérêt pour les questions politiques et sociales à travers le journalisme d'investigation, j'ai rejoint l'ICIJ en 2020.
D'accord. Alors pour les personnes qui écoutent l'émission Libre à vous depuis quelques années, c'est pas la première fois qu'on a des personnes du consortium. En 2019 ou 2020, vous voyez, j'ai bien révisé. Hein. Nous avions reçu, j'avais eu l'occasion d'interviewer rapidement Bruno Thomas et Anne Lhôte, parce qu'à l'époque, l'un des logiciels dont on va parler avait reçu un prix du développement logiciel Open Source Experience. Donc j'avais une petite interview de 15 minutes. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail. Mais d'abord, on va commencer par un petit peu expliquer ce qu'est ce consortium international de journalistes d'investigation, dont les gens n'ont sans doute pas du tout entendu parler. Mais peut-être que vous avez, si nous vous écoutez, entendu parler de certaines des révélations plus ou moins récentes, hein, parce que le consortium existe depuis quelques années. Donc on va commencer peut-être par un rappel de c'est quel consortium, sa mission, puis après son fonctionnement, son impact. Qui veut commencer là-dessus? Maxime ou...
Oui, je veux bien.
Alors Maxime.
Donc le consortium international des journalistes d'investigation, l'ICIJ, ou l'ICIJ, c'est un réseau indépendant de journalistes qui enquêtent sur des affaires internationales. Et son objectif, c'est de creuser les problématiques qui ne s'arrêtent pas qu'aux frontières. Les sujets sont autour de la criminalité, la corruption systémique et la transparence des pouvoirs, que ce soit dans les institutions publiques et privées. Alors l'ICIJ s'associe également ensuite à des rédactions du monde entier pour révéler et diffuser les affaires. Tu veux ajouter quelque chose sur l'organisation?
Oui, pour compléter, l'ICIJ a commencé en 2013 avec les Offshore Leaks. Ça a été une des premières fois où il y a eu une coordination internationale de cette envergure. L'ICIJ, c'est aussi une newsroom en ligne parce que...
C'est quoi une newsroom?
Une rédaction en ligne afin de justement coordonner tous ces journalistes qui participent aux enquêtes. C'est aussi un endroit où on met en place des outils pour collaborer autour des fuites de données, des documents. On fournit aussi de la formation. Et évidemment, une partie essentielle, c'est le fact-checking, donc la vérification des faits qui sont dans les données qu'on récupère.
D'accord. Alors, pour bien comprendre, donc, c'est un consortium de journalistes, donc de journalistes dans le monde entier. Est-ce que vous savez à peu près combien de journalistes sont...
Environ 290 actuellement.
D'accord, c'est assez précis. Est-ce qu'il y a des noms de journalistes français ou connus potentiellement?
En fait, c'est les 280 journalistes, c'est des membres qui ont été recrutés par la CIG sur candidature. Donc il y a par exemple Édouard Perrin, Fabrice Arfi, Aurore Gorius et aussi Maria Ressa qui a partagé le prix Nobel de la paix en 2021. La CIG, c'est aussi des partenaires. Donc pour chaque enquête, on va en fonction de là où se situent les histoires, on va faire appel
du pays, c'est ça.
En fonction du pays. Mmh. On va faire appel aux partenaires. Par exemple, en France, ça va être une rédaction papier comme Le Monde, Radio France et Première Ligne qui fait l'émission Cache Investigation, par exemple. Et donc après, le corps vraiment de l'ICIJ, c'est on est 40 en staff. On a quasiment la moitié, c'est l'équipe tech et data. Une partie éditoriale et une partie fundraising parce que c'est une organisation...
Levée de fonds.
Levée de fonds, pardon. c'est une organisation à but non lucratif qui est basée sur des dons et sur les réponses d'appel à projet. Voilà.
D'accord. Donc c'est des journalistes dans le monde entier qui travaillent sur des travaux d'investigation et à chaque fois dans les pays, vous menez des partenariats avec un certain nombre de journaux pour leur communiquer en avant-première le résultat des enquêtes que ces journaux, donc typiquement par exemple en France, Le Monde, France Inter et puis Première Ligne,
Radio France.
Oui, Radio France. Bon, France Inter faisant partie effectivement de Radio France, Première Ligne, pour rendre visibles ces révélations qui tourne principalement beaucoup autour de la corruption, de l'évasion fiscale notamment. C'est ce qui vous a rendu, entre guillemets, célèbre, si je veux...
Oui.
En tout cas, c'est ma vision. Oui, peut-être qu'elle est fausse. Mais...
Oui, notamment, ça a gagné une notoriété grâce au Panama Papers, surtout.
D'accord. Oui, alors justement, avant de préparer l'émission, j'ai demandé autour de moi, j'ai cité quelques noms de vos dossiers plus ou moins connus en tout cas, Panama Papers, Pandora Papers, alors Offshore Leaks, Uber Files, et globalement ça disait quelque chose aux gens, mais vaguement, sans forcément pouvoir accrocher précisément. Donc peut-être qu'on pourrait juste, sans rentrer forcément dans le détail de chaque, peut-être en prendre au moins deux qui ont un petit peu marqué les esprits. Alors peut-être que celle qui a le plus marqué les esprits, c'est, même si c'est pas la plus ancienne, c'est peut-être les Panama Papers, justement. Alors c'était quoi les Panama Papers? C'est quoi ce scandale? Enfin, ces révélations?
Alors,
Maxime.
Oui. Alors les Panama Papers, c'est un scandale qui a eu lieu en 2016. En fait, il y a eu une fuite de documents d'un cabinet d'avocats panaméens. Il y a eu 11 millions de documents qui ont fuité et qui détaillaient en fait sur plus de 200 000 sociétés offshore ainsi que leur nom d'actionnaire. Et ça impliquait des hommes politiques, des milliardaires, des célébrités et des entreprises.
Alors dans le monde entier.
Dans le monde entier.
En fait, aussi, ce qu'il faut ajouter, c'est que le fait de faire des sociétés offshore, ce n'est pas interdit par la loi. C'est juste que
C'est ce qu'on en fait.
C'est ce qu'on en fait, et c'est surtout que souvent le bénéficiaire ultime est caché derrière pour justement faire pour le coup de l'évasion fiscale. Mais le fait de faire des sociétés offshore, si tout est bien déclaré, on a le droit d'avoir un compte en Suisse.
Moi, j'ai cru comprendre qu'on fait que des sociétés offshore justement pour que ce soit pour cacher des choses, mais bon.
Mais par exemple, dans l'exemple des Panama Papers, en octobre 2021, on avait fait un petit récapitulatif après la pour voir un peu ce que ça avait rapporté aux institutions publiques en termes d'impôts, les gens qui étaient revenus suite aux révélations, et c'était environ 1 milliard 360 millions de dollars qui avaient été
dans le monde entier.
Dans le monde entier.
Et en France, on a une idée ?
Il y a eu un article dans Le Monde récemment, c'était 460 millions d'euros depuis 2016 qui sont retournés dans les caisses de l'État grâce à ces révélations. Ce qui correspond à peu près, je crois que dans l'article de tête, à au moins en équivalent 4 hôpitaux, par exemple.
Alors, ce qu'il faut, la plupart de cet argent qui est revenu dans la caisse, c'est des gens qui ont pris peur. C'est pas simplement les gens qui ont été trouvés, c'est d'autres qui ont dit, si ça se trouve, le prochain enquête de ce consortium, je vais tomber dans les filets, donc je régularise. Après, est-ce qu'on a une idée par rapport, je sais pas si vous avez une idée, mais est-ce qu'on a une idée du pourcentage que ça représente par rapport à l'évasion fiscale mondiale, globale? Est-ce que vous avez une idée? Peut-être pas, Non.
Non.
Ok. Bon, on demandera aux gens qui nous écoutent s'ils ont une idée, ou peut-être ici dans le studio, peut-être que. Alors précision, donc sur le salon web d'ailleurs, donc l'ONUGM qui nous précise, donc près de 33% de la somme était en France en fait. Effectivement. Et par rapport à ce que tu as dit, c'est en gros 33% en France.
Oui, parce que par exemple, il y a très peu d'évasion fiscale aux États-Unis vu que la fiscalité est très avantageuse.
Oui. Elle est très différente.
Pas besoin de partir.
Voilà. Et tout à fait. Ouais. Donc on voit quand même aussi au-delà de alors excusez-moi, j'ai un petit souci avec le salon web, je replace. Au-delà de révéler effectivement. Des pratiques effectivement totalement frauduleuses. On voit tout de suite quand même l'impact que ça a par rapport notamment aux finances publiques. On peut juste espérer que les gouvernements mènent une lutte beaucoup plus acharnée contre ces problèmes-là, plutôt que d'aller chercher des solutions ailleurs. Mais bon. Donc ça, c'est les Panama Papers. C'est un peu comme ce qui, entre guillemets, a fait le plus parler peut-être de ce consortium. Et plus récemment, il y a eu les Uber Files. Alors je ne sais pas si ça a le même succès en fait, parce que visiblement, c'est moins connu, même si on en parlait très récemment et qu'en plus, c'est au plus haut sommet de l'État français, on est concerné, directement concerné, avec le président Macron. Donc, qui veut rappeler ce que sont les Uber Files?
Je peux.
Caroline, comment vous voulez, ce que vous voulez, Maxime.
Alors, les Uber Files, c'est passé en 2022. Et en gros, il y a eu plus de 120 000 documents confidentiels qui révélaient comment Uber... qui révélaient comment Uber profitait de... influencer de nombreux pays pour faire changer les législations en leur faveur, notamment grâce à des hommes politiques dont Emmanuel Macron, comme vous venez de le dire,
qui était à l'époque ministre de l'économie, voilà, c'est ça.
Et donc là, c'est un autre type de scandale parce que ça implique directement nos politiciens.
Tout à fait, oui. Caroline ?
C'est sur la base du coup d'une révélation d'un lanceur d'alerte qui était le lobbyiste Uber. Enfin,
d'Uber.
D'Uber, voilà.
D'Uber. Uber, c'est l'entreprise que tout le monde connaît, voilà. C'est pas cousin Uber.
Non, bien sûr. Et c'est une enquête qui a réuni quand même 180 journalistes et qui a eu quand même un impact important en France, justement, au fait que Macron était président.
Tout à fait. Et je crois que si je me souviens bien, alors on te demande de te rapprocher du micro pour. Si je crois bien dans l'actualité, c'est toujours concerné, parce que je crois qu'il y a une commission d'enquête sur le sujet. Alors je pose la question en même temps à mon collègue qui est sur le salon, il suit plus ses dossiers que moi, il pourra me répondre. En tout cas, voilà, c'est. Alors il y a d'autres, évidemment, il y a le Pandora Papers, Offshore Leaks, vous allez sur le site du consortium ou sur la page Wikipédia, il y a un petit résumé. Vous avez parlé du nombre de journalistes impliqués, justement, ça va nous permettre d'en parler tout à l'heure dans les outils, enfin même très rapidement dans les outils que vous utilisez. Il y a une question par rapport à la commission d'enquête. Donc effectivement, il y a une commission d'enquête sur le sujet, les Uber Files, et la question c'est quel regard portez-vous sur les travaux de la commission d'enquête ? Ou elle a remis son rapport en juillet 2023. Bon, est-ce que vous avez un avis sur...
Personnellement, non, j'ai pas.
Non, je n'ai pas d'avis.
Ok, d'accord. Donc ma question, parce qu'en fait, en lisant ça, j'ai oublié ma question avant d'aborder la partie effectivement des outils. Alors, est-ce que finalement, vous pensez qu'on peut y arriver, cette lutte contre la corruption systémique, l'évasion fiscale systémique? C'est-à-dire que vous mettez en valeur des choses, vous révélez des choses qui sont monstrueuses en termes de niveau de corruption, et c'est très très bien. Est-ce que vous pensez qu'au fur et à mesure des années, avec ce travail-là et d'autres, on va réussir à mettre un terme, en tout cas un terme, à fortement limiter ces problèmes d'évasion fiscale, de corruption Caroline.
Je pense qu'on voit déjà les impacts sur les retombées économiques, sur certains aspects. Je sais aussi que des listes qui avaient été sorties d'enquêtes de l'ICIJ ont aidé à créer les listes de sanctions contre des oligarques russes lors de l'invasion en Ukraine. Donc c'est des petites choses qui arrivent quelques années plus tard, parfois. On sait aussi que, par exemple, les révélations sur les Uber files, ben, ça donne lieu à des commissions d'enquête qui vont, même si on sait que le lobby est très important à Bruxelles, va peut-être aussi changer des choses à ce niveau-là. Et par exemple, ça peut encourager à créer plus de... ça va aussi fournir des bases de données pour après pouvoir construire par-dessus des nouvelles enquêtes et aussi on sait que des gens ont un peu plus peur, ou en tout cas pensent aux conséquences quand, lorsqu'ils vont ouvrir des sociétés offshore. Donc c'est quelque chose qui est quand même présent dans les esprits.
D'accord. D'ailleurs, je crois que c'est un extrait de la commission d'enquête, en tout cas c'est un extrait d'un article qui a été publié, dans lequel je vais lire donc, que les journalistes et lanceurs et lanceuses d'alerte ont un rôle important à jouer dans les enquêtes et la révélation des violations potentielles de la législation fiscale, ainsi que de la corruption, du crime organisé et du blanchiment d'argent. Donc on salue effectivement le travail, enfin cette commission d'enquête salue le travail à la fois des journalistes et des lanceurs et des lanceuses d'alerte qui sont plus ou moins bien protégés. Alors, n'étant pas un spécialiste du sujet, il y a eu plusieurs lois qui sont passées, mais qui nécessitent encore plus de protection parce que ce sont des gens qui prennent des risques considérables et qui peuvent avoir sur leur vie privée des conséquences très très néfastes.
Tout à fait. Je sais qu'il y a la maison des lanceurs d'alerte en France et que globalement, il y a quand même une bonne protection en France des lanceurs d'alerte, mais financièrement, moralement, ça a l'air compliqué.
Ça a l'air très compliqué, oui. Tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, vas-y, moi, Maxime. Personnellement, je pense que le fait de mettre en lumière tous ces scandales aux yeux de la population, c'est ce qui importe le plus. Après, ensuite, les institutions feront ou ne feront peut-être pas le travail, mais tant que les gens sont éclairés sur ce genre de sujet, je pense que ça peut apporter que du positif.
Ben nous sommes d'accord, effectivement. Alors, vous avez tout à l'heure cité le nombre de journalistes qui pouvaient travailler sur ces enquêtes, plusieurs centaines, plus d'une centaine, répartis sur la planète. Donc, effectivement, c'est un travail important. Et là, c'est là où, dans ce travail, l'équipe tech, donc l'équipe technique, les outils, peut-être des principes, vont rentrer en action. Et c'est là où on va parler un petit peu des outils que vous développez. Mais déjà, j'aimerais que vous nous expliquiez cette notion de radical sharing. Alors, que je traduis par partage radical. Je ne sais pas comment vous le traduisez en français. Donc, le radical sharing lors du travail collaboratif. Alors, qui peut m'expliquer cette philosophie?
Je peux expliquer.
Oui. Caroline.
En fait, c'est une philosophie qui est portée assez haut à l'ICIJ et qui est assez unique, en tout cas dans ce que j'ai pu croiser, moi, dans ma vie professionnelle. Et l'idée, c'est, même si on travaille dans le secret, par exemple sur Pandora Papers, c'est 600 journalistes qui travaillent pendant 2 ans sur une enquête. L'idée, c'est que plus on partage ce qu'on trouve, plus on aura des histoires intéressantes parce qu'on a 12 millions de documents. On ne peut pas tout parcourir à une personne, donc on va partager un maximum. Et cette philosophie, elle va s'insinuer dans plusieurs détails qu'on retrouve dans notre travail au quotidien. Par exemple, on a un système de chat et on va toujours préférer parler sur le chat à tout le monde plutôt que de passer en message privé. Donc ça, c'est juste un petit détail. Mais dans la conception aussi des logiciels, on va partir du principe que on va essayer de faire que chaque production d'utilisateuriste va être publique. Par exemple, j'ajoute un tag sur un document, c'est pas un tag pour moi, c'est un tag pour tout le monde. Et c'est ces petites choses-là qui vont faire qu'on va encourager la participation générale et collaborative aux logiciels, aux histoires, évidemment la partie open source est aussi un autre aspect de cette philosophie qui est de partager en source ouverte ce qu'on produit avec la communauté, sans l'aspect pour le coup secret, mais plus de partager ce qu'on produit et de bénéficier en retour aussi des contributions des autres.
D'accord. Alors j'ai une petite question, je n'avais pas prévu avant de parler de l'outil DataShare. Tu viens de parler de chat. Je me demande quel outil vous utilisez pour ce chat. Alors, c'est de la messagerie instantanée, c'est des forums, c'est quoi ?
Rocket Chat.
Oh, bah écoutez, on utilise les mêmes outils. Ouais. Le salon web de l'émission est aussi sur Rocket Chat. Donc, d'accord, c'est Rocket Chat. Ok, donc c'est vrai, cet outil que vous utilisez. C'est une version, c'est la version de base ou c'est une version que vous avez, sur laquelle vous avez fait des modifs
C'est la version de base.
D'accord.
En fait, pour tout ce qui est données confidentielles, l'idée, c'est d'utiliser d'aller vers des outils open source. Mm-hmm. Peut-être que ça dérive un peu sur les questions suivantes.
Mais c'est pas grave. Ça fait l'enchaînement.
Dans l'idée, c'est que si on utilise des outils qui sont propriétaires sur des données sensibles ou confidentielles, on n'a pas la main sur ce qui peut se passer derrière. Donc, pour nous, c'est très important, justement, sur tout ce qui est en interne, de pouvoir savoir comment c'est traité et s'il n'y a pas de fuite ou de regard.
C'est la possibilité que vous avez pour l'équipe technique de faire de l'audit, si vous avez envie de le faire, parce que c'est du logiciel libre, donc le code source est disponible, vous pouvez l'installer, vous maîtrisez, par rapport à un outil externe, privateur, sur lequel vous n'auriez pas ce contrôle.
Tout à fait.
Exactement.
D'accord. Alors, je disais tout à l'heure, en 2019 ou 2020, parce que je ne sais toujours pas en quelle année c'était, l'un de vos outils, un peu l'outil phare peut-être, en tout cas j'ai l'impression, qui s'appelle DataShare, dont on va expliquer, a reçu le prix du meilleur développement logiciel libre, donc à l'open source Experience. Alors, c'est un outil phare, c'est quoi DataShare ? Et à quoi il sert au niveau des journalistes et du consortium ?
Alors, DataShare, c'est un logiciel open source qui permet d'un utilisateur de faire des recherches sur ses propres documents, quel que soit le format. Ces documents, ça peut être des scans, des images, des fichiers Excel, des files de mail ou des boîtes mail entières. Et ce qui peut arriver, c'est que ces fichiers ne sont pas toujours facilement exploitables. Et ce que va faire DataShare, il va être possible d'indexer tous ces documents afin de pouvoir faire des recherches dans ces derniers. En gros, DataShare extrait le texte. Ces recherches peuvent se traduire...
C'est à la fois un logiciel, mais c'est aussi une plateforme. C'est-à-dire, si je comprends bien, c'est une plateforme. En gros, un site web sur lequel les journalistes peuvent... rajouter des documents, il y a un système d'indexation qui ensuite va permettre de trier, de faire des recherches sur les documents, c'est
exactement
bien ça ?
C'est ça.
D'accord.
Les documents vont être indexés avec Elasticsearch, pour rentrer dans les détails.
Donc il y a un outil qui permet de faire des recherches très avancées. Voilà. Ouais. Un outil libre, je précise.
On peut faire des recherches avec utiliser de nombreux filtres, rechercher par terme avec une barre de recherche, filtrer les fichiers par type, par date de création, ou même la chose un peu innovante avec DataShare, c'est qu'on pourrait trier avec des entités nommées.
Alors c'est quoi ?
Les entités nommées, c'est le fait de dégager en fait des noms d'un texte, des noms des organisations, des lieux, etc. Et pour cela, on utilise CoreNLP et OpenNLP pour dégager toutes ces entités.
D'accord. Alors, si je comprends bien, c'est un outil que vous développez en interne, mais basé sur d'autres logiciels libres. D'accord. Okay. Et le choix du logiciel libre, de mettre DataShare en logiciel libre, c'était dès le départ du développement ou c'était après ?
Non, c'était dès le départ. Déjà, Caroline a lancé le sujet tout à l'heure,
oui.
Sur le fait qu'on traite des données confidentielles. Donc, faut avoir une connaissance du code que l'on utilise. Et pour éviter tout risque de fuite.
Et est-ce que c'est aussi une façon d'être en cohérence avec vous cherchez à favoriser la transparence sur les flux financiers, et donc autant utiliser la transparence dans la partie logiciel. D'accord.
Niveau logiciel.
Ouais. D'accord. Et ça fait DataShare est développé depuis combien de temps à peu près ? Vous vous souvenez ?
Depuis 2018, il me semble.
D'accord.
2017-2018.
Et 2018. Et au jour d'aujourd'hui, donc, il est utilisé uniquement au sein de l'ICIG ou d'autres structures l'utilisent ? Enfin, à votre grande connaissance, parce que ça se trouve, vous ne savez pas, mais...
Alors, on sait que d'autres utilisateurs, enfin, des utilisateurs externes, des universitaires utilisent, parce qu'ils nous contactent quand il y a des bugs ou des fonctionnalités implémentées, mais ouais.
D'accord. Le petit rire que vous avez entendu, c'est parce que pour communiquer avec la régie, je vous dis un petit panneau, c'est marqué pause musicale à venir. Donc vous le savez, il y aura une pause musicale à venir. On va la faire tout de suite avant de rentrer un peu plus dans le détail de DataShare, notamment aussi par rapport l'appropriation par les journalistes, hein, parce que il y a des outils qui des fois sont développés par des geeks et sont pas forcément utilisables par d'autres personnes. Donc on va d'abord faire une pause musicale qui va être relativement courte. Je la cherche, elle est là. Alors c'est une pause musicale qui va être un peu particulière parce que c'est la première fois qu'on va diffuser quelque chose qui est dans le domaine public. Et j'expliquerai après. Nous allons écouter 5 Million par Louis Armstrong. On se retrouve dans 2 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
Écoutez 5 Million par Louis Armstrong et qui est dans le domaine public, en tout cas selon la Bibliothèque Nationale de France et le site gallica.bnf.fr, là d'où provient l'enregistrement. Alors cette musique était un choix de Vincent, pas le Vincent de la chronique, un Vincent qui a participé à la fin 2023 à la campagne de financement participatif de la radio Cause Commune. Et Vincent nous a dit dans Parcourir qu'il avait envie de célébrer de vieux enregistrements tombés. Enfin, tombé, excusez-moi, j'ai fait l'erreur. Entrer dans le domaine public pour marquer l'intérêt, au-delà des licences libres justement célébrées toutes les semaines dans l'émission, l'intérêt du domaine public ou de ce qu'il en reste après les multiples extensions de la durée des droits. Donc un grand merci à Vincent, et Vincent a accompagné son choix musical du message « La liberté ne se donne pas, elle se prend ».
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Alors nous allons continuer notre discussion donc sur les logiciels libres pour les journalistes d'investigation, toujours avec nos invités Caroline Desprat, directrice technique adjointe et développeuse logicielle au Consortium international des journalistes d'investigation, et Maxime Vanza Lutonda, développeur dans le sein du même consortium. Alors juste avant la pause, on avait commencé un petit peu à parler de DataShare, donc la plateforme d'indexation et de partage sécurisé d'informations pour les journalistes du consortium d'investigation. Alors d'ailleurs, il y a une démo, si vous voulez tester, vous allez sur dataShare.icij.org, il y a une démo qui est disponible, hein, il y a aussi le code source si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Alors juste avant la pause musicale, je parlais de l'appropriation par les journalistes, parce que voilà, il y a des journalistes qui ont un besoin de partage d'informations, il y a des outils qui existent ou qui plus ou moins en développement. Vous, au sein du consortium, vous décidez de développer un outil. Comment ça s'est fait ? Est-ce que ça s'est fait en cohérence, en discussion avec les journalistes ? Comment s'est fait l'appropriation, le choix des interfaces d'usage, etc. ? Qui veut expliquer un petit peu là-dessus ?
Alors, historiquement, il y avait un besoin justement d'indexation parce que les logiciels qui existaient n'étaient pas assez puissants pour la quantité de données qui étaient reçues et ne traitaient pas forcément efficacement les informations. Donc, c'est à ce moment-là qu'il a fallu décider de prendre en main les choses. Et du coup, un des aspects dans le développement qui a été très important, c'était de se dire, on veut pouvoir indexer un document comme 12 millions. C'est-à-dire que lors du développement logiciel, on va essayer d'être extrêmement scalable, ce qu'on dit en anglais, on va pouvoir passer à l'échelle et permettre d'avoir une grande modularité dans ce qu'on propose. Et de pouvoir aussi étendre les capacités du logiciel en fonction des besoins. Et chaque enquête amène son lot de besoins. Par exemple, on a des enquêtes comme Cypress Confidential, qui est la dernière enquête qui est sortie, où il y avait beaucoup de documents.
Donc, qui concerne Chypre, c'est ça ?
Chypre. D'accord. Où il y a beaucoup de cabinets qui ont aidé des oligarques russes à cacher leur argent. En tout cas, c'est ce qu'ont révélé les documents, en partie. Et du coup, il a fallu traduire des documents grecs, ce qui n'était pas forcément un cas possible, prévu ouais, avant. Et du coup, on a mis en place une solution de traduction automatique à grande échelle pour ça, sur DataShare. Qu'on peut associer à DataShare.
Alors, juste peut-être une question technique là-dessus. Est-ce que l'outil de traduction automatique, il utilise quoi en fait ? C'est quelque chose que vous avez développé ou c'est un logiciel externe ?
Un peu les deux. Il a fallu l'adapter au fait qu'on l'utilise avec une grande base de données. Et c'est basé sur... Je vous fournirai les références après l'émission. Mais c'est open source aussi.
D'accord, ok. Et est-ce que dans l'équipe, alors je suppose que dans l'équipe, donc il y a des gens qui travaillent au niveau de l'interface d'utilisation pour que ce soit utilisable par les gens à qui c'est destiné. Exactement. Parce que là, vous avez dit dans l'équipe, vous étiez 20 dans l'équipe tech, c'est ça ?
Oui, tech et data.
D'accord. Et dans donc, l'équipe technique et données, quoi.
Voilà. Et dans l'équipe technique, il y a une partie système et une partie développement.
D'accord.
Et dans la partie développement, on est six. Et qui inclut également du coup Céline Le Désert, qui est notre designer UI/UX. Et elle, du coup.
UX,
c'est expérience utilisateur. Et une partie de son travail qu'on fait aussi en équipe, ça va être de proposer une interface inclusive et accessible pour le plus grand nombre, parce qu'on ne sait pas exactement qui utilise nos journalistes, qui utilise notre outil. À part les journalistes qu'on côtoie un peu tous les jours. Mais du coup, il faut que ce soit disponible sur des petits écrans, peut-être en plusieurs langues. Et
il y a des questions, je suppose, d'accessibilité aussi pour peut-être des personnes qui sont malvoyantes ou autres.
On essaye de faire des efforts là-dessus. Notamment, on est en train de faire un redesign de l'application pour qu'elle puisse... proposer plus de fonctionnalités. Et donc, on va prendre ces aspects-là en considération. C'est une part importante du travail aussi de développeurs et de développeuses.
Et est-ce que tout à l'heure, je posais la question sur l'usage de DataShare par d'autres structures. Là, sur la partie, comme c'est un logiciel libre, donc le code est disponible, il est sur une forge, c'est-à-dire un site sur lequel on peut contribuer soit par des corrections, soit par des remontées de bugs. Est-ce que vous avez des contributions externes ? De gens qui ne font pas partie du consortium.
Oui, exactement. Sur GitHub, la plateforme GitHub, on reçoit on a mis en place des formulaires de remontée de bugs et de propositions de fonctionnalités. Et en parallèle, on a une boîte support sur laquelle on reçoit des mails de personnes qui utilisent DataShare et qui ont des soucis et qui ont besoin d'aide. Et le profil de ces personnes sont variés. Ça peut être des universitaires, d'autres journalistes ou des gens tout seuls chez eux ou qui veulent monter avec leur équipe un petit logiciel d'indexation. Et ce qui fait que c'est utilisé, en fait, c'est qu'on propose DataShare en deux modes. Mmh. Un mode local, en fait, à utiliser sur sa machine en solitaire, et un mode serveur à déployer sur un serveur et sur lesquels les utilisateurs peuvent implémenter une authentification pour gérer plusieurs comptes, en fait, pour le travail collaboratif.
D'accord. Alors, DataShare, on l'a compris, est conçu pour gérer des milliers de documents avec des centaines et des centaines de personnes. Mais est-ce que finalement, c'est utilisable aussi dans un cas plus simple, avec quelques dizaines de documents, oui, en individuel ? C'est pas une usine à gaz
Non, totalement. C'est utilisable sur les documents personnels. Enfin,
d'accord. Et en termes de plateforme, système d'exploitation, c'est disponible sur quel système ?
Sur tous les systèmes, en fait, justement, l'idée, c'est d'être accessible et simple à installer.
D'accord.
Donc, on va avoir un exécutable sur Windows, un package sur Mac, je suppose, oui, quelque chose comme ça. Et pareil, sur Ubuntu, on est sur le Snap Store.
Dont parlait tout à l'heure Guy, voilà, G.
On a un point .deb, et puis après...
Ça, c'est pour Debian, ouais.
Voilà, donc on peut installer directement... L'outil.
C'est un outil multiplateforme, ce qui est bien. Exactement.
Voilà. On veut que ce soit accessible au plus grand nombre de la manière la plus simple.
D'accord. Et est-ce que vous avez des retours, je suppose que vous avez des retours, oui, mais oui. Quels sont les retours des journalistes, en fait, qui l'utilisent ?
Plutôt positif.
Plutôt positif.
Ils sont constructifs, en tout cas.
Et est-ce qu'il y a des demandes, par exemple, que vous êtes en train, je sais pas, des demandes de rajout, vous êtes en train de traiter, dont vous pourriez parler ? Ne serait-ce qu'une Ou est-ce qu'aujourd'hui, fonctionnellement, quelque part, l'outil répond aux besoins, à part la montée à l'échelle dont on a parlé tout à l'heure, hein, c'est évident, c'est toujours à prendre en compte, mais est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui sont demandées ou des fonctionnalités que vous allez rajouter ou auxquelles vous pensez dans le futur ?
Alors, ce qu'on veut, c'est que DataShare devienne le point de départ d'une enquête. On essaye en général d'être assez agnostique sur la forme que ça peut être... pas forcément une enquête journalistique, mais aussi un travail de recherche, parce qu'on peut travailler par projet. Et donc, ce qu'on veut essayer de mettre en place, c'est de proposer aux gens de prendre leurs notes à l'intérieur du logiciel, ce qui n'est pas possible actuellement, et pour éviter de disséminer des informations sensibles en dehors d'un logiciel qui, pour le coup, est sécurisé. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a envie de vraiment travailler pour aider les journalistes à concentrer leurs notes au sein de leur enquête, par exemple.
D'accord. Et est-ce que dans ce cadre-là, justement, d'outils, d'éviter d'utiliser des outils multiples, vous penseriez à l'option d'ajouter une sorte de messagerie, de courriel, ou c'est hors de propos parce que ça serait inutile ?
On a la rédaction en ligne, pour le coup, qui fait ce travail de communication entre les journalistes. Donc pour D'accord. nous, en interne à l'ICIJ, ce n'est pas une nécessité. Et on n'a pas une nécessité de temps réel
D'accord.
fort sur DataShare.
Alors, et est-ce que l'outil, peut-être le fait déjà, là on parle des journalistes, si on se met du côté des lanceuses d'alerte et des lanceurs d'alerte, qui des fois veulent par exemple contacter des journalistes, leur mettre à disposition des documents, alors à la fois de manière sécurisée et vraiment totalement anonyme, c'est-à-dire sans vraiment savoir qui a envoyé. Bon, il y a des outils qui font ça déjà aujourd'hui, notamment il y a SecureDrop de la. Je ne sais plus comment s'appelle cette fondation, mais ça va me revenir. Est-ce que DataShare le prévoit actuellement ou est-ce que c'est prévu
Alors. Pour l'instant, on a juste un travail de recherche ouais. avec le PFL, c'est l'École polytechnique, de Lausanne.
De Lausanne, ok.
Avec laquelle on travaille sur quelque chose qui s'appelle DataShare Network et qui permettrait en fait à un utilisateur de faire des recherches sur un réseau décentralisé basé sur Tor. Donc en gros,
il faut que tu expliques ce que c'est.
Tor, c'est...
ça tombe bien, j'ai une question après.
C'est The Onion Router. En fait, c'est un réseau décentralisé avec plusieurs machines et pour garantir une certaine anonymisation de l'utilisateur. Et en fait, sur ce travail avec le PFL, il y a un papier d'ailleurs, on pourra le mettre en lien, ouais. Un papier universitaire. Et en fait, le principe, c'est de pouvoir faire des requêtes sur un réseau et pouvoir chercher dans les documents des autres utilisateurs qui ont mis les documents à disposition et ensuite mettre ces deux utilisateurs en contact et pouvoir échanger.
D'accord.
Mais alors, c'est toujours dans les cartons.
D'accord. Alors je vais relier la question que je vois sur le salon. Ouais, mais je vais la relayer juste après parce que tu viens de parler de Tor, donc j'avais préparé une question. En tout cas, on m'avait soumis une question. Donc Tor, c'est notamment un réseau qui permet de faire en sorte d'anonymiser au maximum les connexions, donc de permettre de ne pas être tracé. Et c'est associé aussi avec un navigateur web qui s'appelle le Tor Browser, qui est basé sur Firefox. Donc, est-ce que vous savez si les journalistes d'investigation utilisent ce fameux Tor Browser et si est-ce que ça leur cause des soucis pour accéder à certains sites? Parce que quelqu'un m'a dit, par exemple, si vous allez sur des sites, alors techniquement, je ne sais pas, qui ont du JavaScript, ça pourrait causer des problèmes entre... voilà, je ne sais pas.
Alors, sur Tor Browser, je ne sais pas du tout.
Ouais.
Mais sur Datashare Network, en fait, il y a une autre couche en fait avec un système de clés pour pouvoir communiquer de manière encore plus sécurisée.
D'accord. Ok.
Donc c'est compté dans le cas d'utilisation, mais après bon, c'est encore au stade de recherche.
D'accord. Alors, on vient de me donner la réponse pour SecureDrop, hein, qui est développé sous l'égide de la Freedom of Press Foundation. Je remonte le salon web parce qu'il y avait une question. Donc, alors, est-ce que le monde des journalistes est familier avec le monde du logiciel libre? Existe-t-il des paradigmes proches dans le milieu professionnel? Votre connaissance, bien sûr. Hein.
Alors, je pense que souvent le logiciel libre est heureusement ou malheureusement associé au gratuit. Et pour ça, du coup, les logiciels libres sont parfois utilisés par les journalistes pour ces raisons-là, notamment aussi pour des raisons de transparence, comme on a pu le dire pour ceux qui sont les utilisateurs les plus avancés. Après, à ma connaissance, je ne sais pas à quel point l'aspect libriste est implanté dans le journalisme. Par exemple, à l'ICIJ, des journalistes qu'on côtoie ne sont pas toujours très familiers avec les outils technologiques en général. Et du coup, on propose de la formation là-dessus. Par exemple, on essaye de les encourager, de les obliger à utiliser des clés GPG pour
alors, c'est quoi une clé GPG?
C'est, pour faire simple, c'est une manière de chiffrer un mail et de sécuriser une communication avec une personne qui a votre clé. Donc, si vous connaissez l'autre personne, vous pouvez déchiffrer son message.
Voilà, sachant que, en fait, techniquement, les courriels, quand ils transitent sur les réseaux, ils transitent par défaut en clair. Donc, évidemment, si ça transite par différents réseaux, les gens qui gèrent ces réseaux pourraient lire le contenu avec GPG. C'est un outil de chiffrement. Donc, le courriel, il part chiffré. Et techniquement, normalement, il ne peut être déchiffré que par la personne qui a votre clé, ce qui assure effectivement une forte confidentialité des informations. Et donc là-dessus, vous faites de la formation sur le fait d'utiliser l'outil et comment l'utiliser.
C'est ça. D'accord. L'idée, c'est pas de... On essaye de passer outre les détails techniques, on essaye de rendre ça simple. On ne va pas forcément expliquer le fait que ce soit open source. Je ne sais pas combien de journalistes à l'ICIJ savent que Datashare est open source, par exemple. C'est pas mais l'effort, pour moi, l'effort important qui est fait sur la qualité logicielle et d'expérience utilisateur et utilisatrice leur permet de rentrer dans l'outil technique sans s'en rendre compte. Mais on n'aborde pas forcément les aspects open source avec les journalistes.
D'accord. Donc on a bien compris que l'un des outils phares, peut-être même l'outil phare d'ICIJ, c'est Datashare. Est-ce que et que vous faites quand même à côté aussi de la formation à d'autres outils libres en essayant de le rendre le plus transparent possible, le plus simple possible, parce que effectivement c'est pas forcément très très simple à comprendre du premier abord. Est-ce que vous avez d'autres outils que vous développez en interne, par exemple un dont vous aimeriez parler, mettre en avant? Parce que c'est vrai que moi quand quand on m'a proposé, enfin quand je sais plus qui, je crois que c'est Anne d'ailleurs qui m'avait dit il faudrait que tu refasses une émission avec le consortium. Moi, le premier mot qui me venait à l'esprit, c'était data share. Mais je suppose que peut-être qu'il y en a d'autres que vous avez développés depuis.
Oui, Maxime. Alors on a développé un logiciel qui s'appelle Prophecies. C'est un outil en fait de fact-checking collaboratif.
Donc vérification de faits.
Vérification de faits de données brutes, on va dire. Donc le principe, là, il est simple, hein, c'est de vérifier la connaissance, la cohérence d'un jeu de données et en distribuant les données à vérifier à une équipe. Et en fait, le logiciel permet de paramétrer le nombre de vérifications que chaque personne doit faire, quelles données à vérifier, etc. Et tout ça, c'est fait de manière un peu pas ludique, mais avec un taux de complétion qui est affiché. Enfin, les gens, enfin les
qu'est-ce que t'appelles un taux de complétion ? Je suis pas sûr.
Parce qu'en fait, c'est organisé. En fait, le logiciel l'a organisé en tâches.
Ouais.
En tâche à réaliser.
D'accord.
Donc c'est des données à vérifier, par exemple des adresses.
D'accord. Il y a un pourcentage de complétion de réussite
ouais, pour chaque utilisateur.
Non, mais c'est bien. Ouais.
Par exemple, on a des adresses à vérifier et on vérifie que telle adresse se trouve bien dans tel pays, on valide ou pas.
C'est un système de récompense qui encourage à continuer.
Un peu, voilà. Ouais, et puis. Et du coup, c'est plus, c'est un peu mieux que d'avoir des fichiers Excel qui traînent avec tout le monde qui modifie le fichier en même temps et qui ait des soucis après avec ça.
D'accord. Donc ça, c'est un outil de vérification de faits. Donc
on a un jeu de données, on fait le vérifier par une équipe.
D'accord. Donc si je suppose qu'en fait vous développez des outils à la demande entre guillemets, voilà, par rapport aux besoins des journalistes.
C'était un besoin pour une enquête.
Pour une enquête précise, ouais. D'accord. Et pareil, c'est marqué, c'est diffusé en logiciel libre,
oui,
sur une forge,
c'est disponible sur GitHub.
D'accord. Et est-ce que il y a des outils que vous développez en interne que vous ne mettez pas en libre ? Je sais pas, hein, pour une raison ou pour une autre. Hein. Ou par défaut, c'est diffusé en libre ?
Par défaut, on diffuse en libre. Tout ce qui n'est pas diffusé est plus spécialisé sur la marque, le site web.
Ah oui, d'accord. Okay.
Voilà, mais tout ce qu'on pense qui n'est pas utile à la communauté. Et voilà. En général, tout ce qui est vraiment interne n'est pas diffusé est quand même basé sur du logiciel libre. Le plus souvent, je n'ai pas de contre-exemple. Mais voilà, on part du principe qu'on redonne aussi à la communauté.
D'accord. Là, on va changer un tout petit peu. Alors, le temps file vite. Hein, je vois. Tout à l'heure, tu as employé un moment le terme de source ouverte. Mm-hmm. D'enquête en source ouverte. Alors, peut-être expliquer ce que c'est qu'une enquête en source ouverte et peut-être prendre un exemple de ce que vous avez, de ce que le consortium a fait en source ouverte. Donc, déjà, c'est quoi une enquête en source ouverte ?
Donc, une enquête en source ouverte, ça va être une enquête où on va prendre des informations qui sont disponibles en général sur le web, donc qui sont ouvertes, donc accessibles. Accessibles, après, est-ce que ça veut dire qu'elles sont bien formatées ? Non. Et donc, l'exemple qu'on a, c'est une enquête qu'on a fait en 2023, qui s'appelle Deforestation Inc., qui est une enquête qui n'est pas basée sur un leak, mais qui est une fuite de données, mais qui est une proposition de l'ICIJ qui s'est rendu compte que les systèmes de certification concernant les systèmes de certification sur les productions en bois n'étaient pas toujours claires et transparentes. Et ce qu'on fait, par exemple, ça va être l'analyse d'images satellites qui sont parfois des sources ouvertes, donc pour voir est-ce qu'il y a une forêt qui a été coupée, qui n'aurait pas dû être coupée, est-ce qu'il y avait les autorisations à cette époque-là, ou alors aspirer aussi les informations de sites où il y a les certificats de manière systématique pour exposer un problème systémique. C'est-à-dire, on récupère tous les certificats, on va voir est-ce que ce critère est vérifiable, est-ce qu'il n'est pas vérifiable, et est-ce que cette personne qui a obtenu cette certification avait le droit d'obtenir cette certification. Et dans ce cas-là, on s'est basé sur des sources qui étaient disponibles un peu de manière... mais un peu mise à disposition de manière opaque pour pour différentes raisons, parfois.
Pour cacher une déforestation massive illégale, quoi, c'est ça ?
Qui peut parfois cacher justement des déforestations illégales ou des tampons qui arrivent en Europe, c'est vert et en fait ça n'aurait jamais dû arriver jusqu'à chez nous.
Et donc là, c'est le cabinet d'audit qui était en cause dans ce dossier-là, c'est ça ?
Justement, en fait, ce qui est intéressant dans les enquêtes qu'on fait, c'est qu'on a plusieurs problèmes locaux. Ça va être en Indonésie, ça va être au Canada, etc. Et on voit que c'est les mêmes méthodes qui sont parfois appliquées dans différents pays. Donc, et du coup, c'est pour ça qu'on s'intéresse. Ces enquêtes finissent par être publiées, parce qu'on ne publie pas tout. Elles reposent sur un problème local, mais c'est un problème systémique qui va avoir un impact global. Si c'est publié par la ICIJ, peut-être qu'il y aura des retombées positives, positives, qui vont mettre en lumière certains problèmes systémiques liés à la déforestation, par exemple.
Parce que derrière, il y a des structures internationales qui finalement contournent les règles partout, en fait.
Tout à fait.
Voilà. Cabinet d'audit ou autre, hein. D'accord, source ouverte. Alors, le temps passe vite, hein, 16h. Et sur les. Et donc aujourd'hui, vous êtes aussi reconnu par la base de données massive que vous avez finalement constitué de toutes ces, en fait, de toutes ces violations, notamment sur l'évasion fiscale, qui est maintenue, qui est grossie. Est-ce qu'elle est étudiée d'ailleurs par des gens, au-delà de l'aspect journaliste et autres, par des gens qui font de la recherche, tout ça, etc. Enfin, historique.
Alors, vous faites référence à l'Offshore League Database.
Oui.
Okay, c'est une base de données, oui, de sociétés offshore. Et qui. Alors, on a fait un sondage il n'y a pas longtemps. Et on a eu plus d'une centaine de réponses. En fait, il y avait plusieurs types de profils qui utilisent cette base de données. Donc là, on a fait ce sondage et on a essayé d'essayer de savoir quels sont les besoins, en fait, de ces personnes. Donc il y aura certainement des travaux en cours sur ça.
Ok. Anne. Ah, je pensais à Anne l'autre, qui est une ancienne de l'ICIJ. Caroline, excuse-moi.
Oui, ce qu'on a vu dans les profils, pour ajouter sur ce qu'a dit Maxime. C'est que donc c'est souvent des gens qui travaillent aux impôts qui vont regarder ces bases de données, des banques aussi qui vont regarder si leur client apparaît dans cette base de données. Ça peut être aussi pour de la recherche, d'autres journalistes. Et il y a plusieurs bases de données ouvertes, comme Offshore Leaks, qui permettent de recouper des informations, justement pour avoir cette information dans la finance offshore qui est le bénéficiaire ultime, et d'avoir accès à cette information de manière plus transparente. Et comme disait Maxime, justement, on va faire un gros effort pour cette année et faciliter l'usage de cette base de données, continuer de l'enrichir avec les informations des précédentes enquêtes, mises à jour régulièrement.
D'accord. Alors, dernier sujet, qui va être rapide, mais dans vos objectifs ou dans vos projets de l'équipe technique, est-ce que vous avez des priorités, alors qui ne sont pas forcément autour de l'évasion fiscale, ça peut être l'empreinte carbone ou autre, est-ce que vous avez des choses qui sont dans votre feuille de route dans les mois, années à venir ? Alors qui ?
Vas-y Maxime.
Vas-y Maxime alors.
Oui, on a des objectifs en fait, d'optimisation, en fait, afin de réduire l'empreinte carbone, plus d'interopérabilité.
C'est pas facile à dire. Hein. Celui-là, ouais.
Interopérabilité dans les formats des données, rendre aussi.
Oui, parce qu'en fait, sur cette question, je suppose que vous recevez des données qui sont dans des tas de formats différents, qui sont pas forcément. Voilà. Interopérable, c'est-à-dire entre guillemets compatibles entre eux, forcément. Donc,
Et même certains fichiers qu'on ne peut pas.
Pas ouvrir.
Pas ouvrir, mais. Ou difficile. En fait, il y a une prévue dans DataShare, par exemple.
Ouais.
Et certains fichiers, on ne peut pas les voir, enfin voilà.
D'accord,
Et aussi rendre le logiciel en fait plus ouvert. Là, on a un travail en fait où on va inclure par exemple une partie en Python.
Par plus ouvert dans quel sens ?
Ouvert de data share ?
Oui.
Enfin, avec des extensions.
Ah, ok, d'accord. D'accord. Donc pour faciliter l'ajout de fonctionnalités via des extensions qui seraient écrites. D'ailleurs, j'ai même pas demandé, il est écrit en quel langage, d'attacher
C'est en Java.
C'est en Java, d'accord.
C'est en Java.
D'accord. Donc là, le choix de Python, c'est quoi ? C'est parce qu'il y a plus de gens qui font du Python que de Java ou
C'est pour faciliter l'analyse de données.
Ouais. D'accord.
Parce que les gens qui sont. D'accord. Les data analysts, les gens qui font de l'analyse de données sont souvent plus.
En Python. Alors, Python, c'est un langage de programmation. J'en profite pour dire qu'en septembre ou octobre 2024, on fera un sujet sur les langages de programmation et notamment orienté Python. Avant les journées Python qui ont lieu, je crois, à Strasbourg cette année. D'accord. Donc, faciliter le rajout de fonctionnalités avec un langage qui est vraiment. Un langage de programmation qui est vraiment orienté à l'analyse de données, etc. Mm. OK. D'accord. D'autres projets ou perspectives ? Ou des besoins peut-être ? Est-ce que vous recrutez, tiens ?
Pas que je sache. Non, ce qui nous occupe beaucoup en ce moment, c'est justement ce redesign qui va permettre justement d'inclure plus de nouvelles fonctionnalités, faire de la place, rendre le logiciel plus accessible. Et faciliter, quand on parlait d'interopérabilité, c'est aussi, on fait plein de logiciels, maintenant il faut qu'ils puissent communiquer entre eux, et notre but c'est que justement DataShare devienne un peu le point de départ pour les enquêtes.
L'élément central d'entrée, c'est ça.
Voilà, et qu'ils puissent communiquer avec d'autres outils. DataShare c'est à la fois un moteur de recherche, mais aussi une interface sur laquelle on va pouvoir faire des requêtes, mais on a aussi un outil en ligne de commande, et on voudrait pouvoir faire communiquer les deux. On voudrait que, par exemple, les données qui sont dans DataShare puissent être fact-checkées, vérifiées avec Prophecies, qui est aussi notre outil de vérification. Donc tout ça, c'est quelque chose qui a un travail de fond et qui va nous occuper encore quelques années, je pense.
D'accord. Bon. Alors, on arrive à la fin de l'échange avant la question traditionnelle qui permet d'essayer d'extraire l'essentiel de l'échange. Donc, pour conclure, quels sont les éléments clés à retenir selon vous, en tout cas de cette émission ? Alors, en moins de deux minutes, chacun et chacune. On va commencer par Maxime.
Oui. Alors, moi, j'aimerais insister sur l'importance d'outils comme DataShare parce que, en fait, de nos jours, les données sont de plus en plus nombreuses et complexes. Et à titre d'exemple, les Panama Papers, l'origine des données en fait vient d'un cabinet d'avocats panaméens qui était créé dans les années 70. Et donc des années 70 à aujourd'hui, ça a représenté environ 12 millions de documents. Donc si on avait un scandale de cette envergure de nos jours, de la même durée, je pense que le nombre de données serait infiniment plus grand. Donc il faudrait que les outils qui assistent les journalistes comme DataShare suivent. Et je pense que c'est ça le plus important en fait, et qu'il faut travailler.
D'accord. Caroline ?
Oui. Du coup, pour résumer, je pense qu'il est important de soutenir un journalisme indépendant. Par exemple, l'ICIJ fonctionne sous forme de dons, mais ça peut être aussi des contributions sur les logiciels open source aussi qu'on propose pour justement garder un pluralisme dans nos démocraties. Du coup, ici aujourd'hui, on est venu parler de l'ICIJ et des logiciels open source qu'on propose. Donc, si vous avez l'opportunité et l'envie de contribuer à DataShare, n'hésitez pas. Ou si vous avez des questions, on a aussi une boîte mail dataShare@icij.org. Pardon. Et voilà, du coup.
Bah écoutez, c'est très bien, et il faut voilà faire. Vous pouvez faire un don effectivement à ICIJ, vous pouvez vous abonner à des sites de presse ou des journaux qui font des enquêtes d'investigation, comme par exemple Mediapart. Hein. Alors, à titre personnel, je suis un abonné ravi, enchanté du travail de Mediapart, mais c'est pas le seul évidemment. Bah écoutez, c'était super. Nous sommes. Je suis. Non, je cherchais. Ah si, vous avez un félicitations sur le salon web, donc voilà. Et en tout cas, c'était vraiment très bien. Donc le site web, c'est icij.org. Voilà, donc vous y allez. Sur le site web de l'émission, donc sur libravou.org/203, vous avez toutes les références qu'on a citées et on rajoutera celles qui ont été citées en cours de route de l'émission, notamment les articles, etc. Comme ça, vous retrouverez toutes les informations donc sur libravou.org/203. Bah écoutez, c'était donc Caroline Desprez et Maxime Vanza Lutonda qui sont donc du Consortium international des journalistes d'investigation. Merci à vous et bonne fin de journée.
Merci Frédéric. Merci.